voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Se soigner autrement. L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, causes et effets, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les médecines alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. La voix du Kaizen donne la parole à ces thérapeutes alternatifs qui complètent la médecine allopathique et nous permettent de soigner notre corps et parfois notre âme. Dr Han est une médecin généraliste, acupunctrice au service des hommes et du vivant. Dans ses pratiques, elle utilise la médecine chinoise qu'elle nous présente dans cette émission radio La Voix du Kaizen. Alors dans cette série d'émissions La Voix du Kaizen, l'idée c'est de dresser plein de portraits différents de thérapeutes. Montrer qu'aujourd'hui, on a plein de thérapies alternatives qui existent pour trouver l'équilibre intérieur-extérieur. Et ce que j'aime dans ces émissions, c'est montrer que l'être n'est pas seulement un corps physique, mais qu'il y a une dimension bien plus globale de l'être humain. On parle de dimension holistique, donc de corps physique, oui, mais émotionnel, spirituel et peut-être encore d'autres. Dans toute cette thématique thérapie, je fais différentes rencontres, énergéticien, ayurveda, naturopathie, ostéopathie, et avec Han, on va parler aujourd'hui de médecine chinoise. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais m'intéresser un peu à toi, à ton parcours, et savoir ce qui t'a amené à t'intéresser au domaine de la santé. Bonjour Han.
Bonjour Alexandre. D'abord, bienvenue chez nous. Je vais d'abord t'offrir un poème qui vient de ma pratique. Le chemin de la santé et la pleine conscience. Le sourire à chaque pas pour transformer les embûches. Dans les sillons tracés par mes ancêtres, génétiques, spirituels et de l'environnement, j'offre la joie à mes filles et aux enfants de la terre.
Donc déjà, j'entends là que la joie pourrait déjà être un médicament qu'on pourrait tous prendre.
C'est une émotion qui nous nourrit quand on a des embûches sur la terre. Et dès qu'on est né, déjà, il fallait beaucoup de joie pour sortir vivant du ventre de notre mère. Donc la joie est issue dans notre médecine chinoise, que j'appellerais plutôt sino-vietnamienne, parce que je suis vietnamienne d'origine. Et c'est vrai que Vietnam, ça veut dire pays du sud par rapport à notre grand frère, la Chine, Chongqo, qui est l'empire du milieu. Donc la médecine sino-vietnamienne, c'est d'abord peut-être définir la médecine tout court. Moi, je crois que la médecine est née dans chaque société. Par exemple, j'ai eu un parcours de médecine occidentale scientifique parce que j'avais comme rêve de ramener la médecine occidentale au Vietnam. Or, la médecine occidentale scientifique ne date que 2 siècles, à partir de Claude Bernard, où il soulève que on pratique une médecine expérimentale physiologique. Et donc c'est peut-être à partir de là qu'on a commencé à choisir la médecine technique pour être très précis, pour être concis. Par exemple, dans mon parcours, j'ai fait une formation de médecine d'urgence. C'est étrange, mais c'est comme ça. Donc j'ai pratiqué la réanimation tout au long des années. Et en 1972, Nixon visitait la Chine et mon confrère Dr Nguyen Van Nghi à Marseille a soulevé qu'on pouvait peut-être commencer à importer l'acupuncture en France. Mais dans la réalité, mes patrons en acupuncture exerçaient déjà, comme on dit en douce, l'acupuncture.
Tu es un pont, en fait, entre les deux cultures. Tu es venu en Occident pour t'intéresser à la médecine occidentale et la rapporter en Asie, mais du coup, tu as aussi ramené une partie de l'Asie chez nous. Tu as vraiment fait finalement une sorte de complémentarité entre ces deux médecines.
Je dirais que on a besoin de la synergie des deux médecines, parce que si je me réfère en Occident, Hippocrate était déjà dans la médecine holistique, c'est-à-dire 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est uniquement à partir de Claude Bernard. Et je voudrais juste t'introduire l'histoire de l'esprit cartésien, qui, vraiment, l'Occident se dit dans la lignée de l'esprit cartésien. Descartes a médité, et dans ses méditations, il a sorti, en latin, c'est « dubito ergo cogito ». « Je doute, donc je suis ».« Cogito ergo sum ». ».« Je doute, donc je pense ». Cogito ergo sum, je pense dont je suis, et attention, sum deus est. Et les contemporains ou pas de Descartes, je ne sais pas quelle origine, ont coupé deus est. Donc c'est vrai que peut-être c'est par réaction par rapport aux contemporains où il y avait des esprits un peu spéciaux, ils avaient envie de plus être ésotériques, ils ont coupé, mais Descartes n'a jamais dit que je pense donc je suis. Et si on se réfère maintenant à ce choix de la médecine occidentale, parce que ce n'est pas né par hasard, je pense donc je suis, en Orient on ne dit jamais je pense dans le vague, je pense que je suis du thé, je pense que je suis le bambou. C'est-à-dire on pense à quelque chose, c'est l'esprit qui pense, ce n'est pas l'être. L'être dans sa totalité vit et vit par rapport à la pensée qu'il a choisie. Donc, quand nous pensons la joie, on la jardine la joie. La joie ne vient pas tout seul. C'est comme la fleur de lotus qui naît de la boue. Donc, quand on tombe en panne, c'est le mal qui a dit. Donc, si la maladie sort, c'est toujours pour nous aider. C'est-à-dire que quand je dis souvent à mes patients que le corps qui est en panne appelle à l'aide, au secours. Donc c'est un avocat de la vie pour vérifier si on est encore vivant. Donc c'est vrai que dans ma trajectoire, j'ai failli échapper à la vie terrestre quelques fois. Et je sais que c'est toujours pour nous éprouver si on a envie de rester en vie. Mais c'est vrai que comme toi, tu as senti, la joie ne peut pas venir du ciel. La joie vient de notre cœur, vient de notre rencontre. Et c'est vrai que récemment, pour pouvoir accompagner un être sur son départ, c'est un sculpteur américain. Il était à Formentera en train de mourir et son ami proche lui dit « Écoute, tu ne vas pas rester tout seul là-bas, on va te ramener en Dordogne. » Et quand il est arrivé à Barcelone, il a failli mourir. Donc il est arrivé avec son corps, très en panne, en Dordogne, dont je l'ai rencontré dans ma vie et dans sa vie un mois avant sa mort. Et donc, il me disait, j'ai envie de partir. Je disais, mais ton corps, il n'est pas prêt. Parce qu'en plus, il pratiquait le zen. Donc, il sentait que son corps est en train de lâcher. Mais comme j'ai eu beaucoup de chance à accompagner le mourant, je savais qu'il ne partait pas encore. Et donc, je lui disais, écoute, essaie de vivre la joie en toi pour qu'un moment dans ton départ, tu puisses pousser ton dernier souffle. Et c'est ce qui s'est passé un mois après.
Je m'intéressais à, tu parles de tomber en panne, donc la maladie, le mal qui dit. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Pourquoi est-ce qu'elle se déclenche?
Alors, dans notre conception de médecine chinoise, je vais faire la comparaison de l'hypertension. Par rapport à la médecine scientifique, dont on a des repères, on prend la tension, on voit l'impact de la tension, donc on a différentes hypertensions, et suivant le genre, on va donner telle molécule. Donc des fois, c'est trop fort le traitement, le patient ne supporte pas, il arrête, des fois c'est adapté. Mais nous, en médecine chinoise, pour avoir aidé beaucoup de patients, on conçoit que nous, on est un arbre de vie, dont les racines de l'arbre, c'est l'énergie des reins. C'est-à-dire tout le capital qui nous est alloué à la naissance et qu'on va épuiser au fur et à mesure de notre vie sur la Terre. Quand quelqu'un fait de l'hypertension, c'est qu'il a trop utilisé ses racines et donc le cœur, l'énergie du cœur, c'est les fleurs et les graines de l'arbre. Donc quand tu n'as pas trop de racines, ça crame là-haut, donc tu fais de l'hypertension. Donc tu apprends au patient à nourrir l'énergie des reins, les racines. Comment on le fait ? Par le repos. Le repos, c'est dormir assez la nuit. Le repos, c'est apprendre à ne pas trop réfléchir. Donc en fait, dans la vie, sur la Terre, tu as un rythme ultradien, 90 minutes. C'est-à-dire que si tu réfléchis et tu agis, et tu ne sais pas t'arrêter, te poser, au bout d'un moment, tu continues à travailler, mais ça crame là-haut parce que le pH, il est acide. Il n'y a plus que du CO2 dans le cerveau. Mais tu te rassures en continuant à travailler. Alors imagine nous tous en train de travailler du matin au soir sans s'occuper. Donc j'ai appris aux êtres qui ont de l'hypertension du Qigong. C'est-à-dire on prend la tension avant la séance de Qigong et on le prend après. Ceux qui font de l'hypotension, l'hypertension avant la séance, après une heure de Qigong, même pas une heure, 45 minutes, ils ont la régulation de la tension artérielle. Donc tu vois que notre souffle peut influer sur notre hypertension. Donc quand la panne sort, c'est toujours que ça nous secourt, par exemple pour l'hypertension, de cerveau, du cœur, que tu fais trop par rapport à ce que ton corps te dit. Donc il appelle au secours.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc la maladie est un indicateur. Il faut savoir aussi l'écouter, comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette maladie. Parce que souvent, dans le schéma classique et conventionnel, pour guérir telle et telle maladie, on va prendre une pilule, une gélule, un comprimé qui va stopper la douleur, mais on va rien régler en profondeur. Tu parlais de cette notion de la racine.
Oui, justement, c'est issu de cette médecine du temps de Claude Bernard, c'est qu'on identifie l'ennemi à l'extérieur de son être. Dans la médecine énergétique, et puis tu verras, dans les thérapies alternatives, nous sommes un tout, comme dans le Tao. C'est-à-dire qu'il y a le tout chez nous qui est le reflet de l'extérieur, dont notre ennemi est à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Donc si on fait la paix avec notre ennemi intérieur, la vie nous attend. Donc si tu fais la paix avec ton angoisse, avec ta colère, parce qu'en médecine chinoise, l'énergie de la colère est la maman de l'énergie de la joie, qui est le cœur. Donc, l'énergétique du foie fait fonctionner l'énergétique du cœur.
C'est vrai qu'il y a tout un travail autour des émotions. Les émotions sont très importantes aussi pour pouvoir s'auto-guérir.
Mais c'est ça. C'est que grâce à mon parcours de médecin technique et puis qu'après j'ai vu l'apport de la médecine chinoise, qu'on a accès à notre émotion, on a le pouvoir sur elle. Donc, dans le texte bouddhique, je suis obligée de parler aussi de ma référence de la pratique de la pleine conscience, c'est le sentiment de la joie n'est pas une émotion. Le sentiment de la joie, c'est naturel, ça existe. Le sentiment de la colère, c'est naturel, c'est-à-dire un enfant, c'est normal qu'il soit en colère quand il veut un jouet qu'il n'a pas. Dès qu'il a le jouet, il est joyeux. Mais pour acquérir le jouet, il a besoin de la volonté de l'énergie des reins, c'est-à-dire accéder à la peur. Pour ça aussi, il faut l'automatisme du poumon qui gère la tristesse. Il te faut le discernement de l'énergie de la rate, pouvoir se jouer, va te faire du bien ou pas, va te rendre service en lien avec l'autre.
Chaque organe représente une émotion différente.
On a 5 émotions qui sont en lien, interdépendants. Donc la joie ne peut pas être toute seule comme ça. La joie est issue grâce à la peur pour nous contrôler qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais si on a trop peur, on devient angoissé. Par exemple, un animal, quand il est blessé, il va dans une grotte pour se reposer. Il va cicatriser. Le cerveau humain, il ne fait pas ça. Quand il y a un danger, il se peut que ce soit le danger physique extérieur, mais il y a aussi le danger intérieur qu'on appelle l'angoisse. Là, c'est une émotion. Tandis que la peur peut être un sentiment neutre pour nous aider, pour nous défendre. Mais notre cerveau humain peut vivre la peur comme une émotion négative. Donc tu vois que l'émotion peut être positive si on fait attention quand on traverse un feu. Si on veut vraiment être écrasé, on dit qu'il n'y a pas de feu vert, on traverse et la voiture nous écrase. Mais si tu as peur, au moment de traverser, comme tu as été marqué par un accident, tu vas croire que la voiture va se jeter sur toi alors qu'il n'y a pas de danger. Ça, c'est l'émotion négative due à la peur.
Je vais revenir à cette notion de pont que tu es entre l'Occident et l'Orient, et j'aimerais que tu me présentes la médecine chinoise, peut-être les origines, l'histoire.
Ils ne peuvent pas te demander la médecine chinoise comme ça, parce que ça date de 2000 ans déjà avant Jésus-Christ, plus maintenant 2000 ans, c'est quand même de l'ordre de 3500 ans. Parce que déjà quand on voyait dans les fouilles archéologiques, on voyait déjà des personnes en position de Qigong qui étaient déjà une assise pour respirer. Et après, l'acupuncture et les points d'énergie ont été découvertes par empirisme. Donc en fait, ça ne jaillit pas comme ça. Ça jaillit au fur et à mesure de notre vie.
Et ça s'adapte aussi à nos vies, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes mots aujourd'hui qu'il y a 500 ans ou qu'il y a 2000 ans.
Tout à fait. Et donc tu vas encore en Chine, ou en Corée, au Japon, au Vietnam, tu as encore des recherches qui continuent à approfondir le corpus de la médecine chinoise. C'est ça qui est très intéressant. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que grâce à la science des outils pour la concision, ce qui est très beau, que ça répond à ce qui était déjà établi dans le corpus. Donc tout se retrouve, la tradition et la science se retrouvent. Donc il n'y a pas à faire une opposition entre la science et la tradition. Tu sais, tu as le symbole du tai chi, tu sais, le yin et le yang. Et on a taquiné un petit peu la grosse tête du poisson, c'est l'Occident avec la tête qui pense et une petite queue du poisson. Et nous, en Orient, au contraire, on a une grosse queue, un gros ventre qui arrive, une petite tête. Et ça s'interpénètre pour le centre. Donc, où que l'on soit, en vivant le centre, on a la synergie des deux, la tête et le corps. Donc, ça revient au poème que mon maître a transmis lorsque je lui ai offert mon poème. Les patriarches donc Zen disaient « Ton vœu a toujours existé comme la pleine lune. Tous les mondes viennent de l'esprit. Les thérapies orientales et occidentales se combinent harmonieusement. Corps et esprit font un. Pratique assidûment. » Tu vois l'humilité qu'on lui demande sur la terre ? C'est notre vécu qui va faire que, quand tu as échappé aux accidents de la vie comme moi, j'ai vu que je trouve qu'il faudrait que les médecins arrivent à vivre cette expérience pour pouvoir soigner l'autre. Si tu ne te soignes pas, tu ne fais que t'occuper des autres. Au bout d'un moment, tu t'essouffles. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie à l'âge de 27 ans. À force de faire la réanimation, je ne pensais plus à me reposer. On ne dormait pas la nuit, donc au bout d'un moment, donc je suis tombée en panne. Et quand, à une demi-heure près, la chirurgienne danoise me dit « On ne sait pas ce que vous avez, mais on va vous opérer. » Moi, j'ai poussé un ouf de soulagement. Alors que quand j'assiste aux opérations, mon Dieu, j'aimerais pas être opérée. Là, on va m'opérer pour me sauver. Donc tu vois aussi l'impact de la médecine occidentale. C'est-à-dire, en aigu, on a besoin qu'on éteint le feu. Et puis après, une fois que le feu est éteint, comme ça m'est arrivé pendant 6 mois, je ne pouvais pas marcher. J'ai appris à marcher, pas par pas. Je me suis reliée à mon ventre. J'ai trouvé qu'est-ce que c'est que de pouvoir respirer. Quand tu es resté en panne 6 mois, tu savoures la vie d'une autre manière. Tu n'es plus en train de courir comme je traversais le couloir des hôpitaux. Ça suffisait jamais 24 heures.
J'aime bien ta notion de en panne, donc je vais la reprendre. Alors, est-ce que c'est une croyance populaire que j'ai? Mais moi, dans ma tête, quand je pense médecine chinoise, j'ai dû entendre ça ou j'ai dû lire ça plusieurs fois. On ne va pas chez un médecin chinois quand tout va mal, on y va quand tout va bien, et c'est de la prévention pour ne pas tomber malade. Alors qu'en France, c'est plutôt dans l'urgence qu'on se retrouve chez un médecin.
Voilà. En fait, cette tradition, c'est qu'en fait, avant, le médecin était, entre guillemets, salarié de la famille. Tu sais, les grandes familles avaient un médecin qui est payé par la famille, donc tout le monde est en bonne santé, il lui donne la façon de se nourrir, il donne des conseils. Et donc, il le régule avec les saisons. Par exemple, les patients viennent ici, quand ils ne sont pas en panne, dans l'intersaison de la rate, comme nous sommes en train de vivre, qu'en ce moment, nous avons fini la rate pour passer à l'énergie du cœur, c'est-à-dire à l'été. On vient de passer 18 jours de discernement pour passer à l'action. Ça veut dire que si on sait se reposer dans la journée, si on sait se reposer dans l'année, c'est-à-dire dormir tôt, se lever tard l'hiver, se lever tôt ou dormir tard l'été, ça ne coûte pas cher en énergie, ça circule bien. Donc si on ne fait pas attention à tout ça, si on n'écoute pas les conseils de prévention, on tombe en panne. Mais on a habitué en Occident que les patients ne s'occupent pas de leur corps. Tu vois ? Par exemple, pour être en forme, maintenant que j'ai échappé aux pannes, le matin, je fais une méditation zazen, j'accueille la vie des jours où je suis en forme. Je retrouve le sourire après 22 minutes je fais, parce que je disais que c'est plus facile de faire 3 fois 22 minutes, parce que 44, c'est le luxe, et ça m'arrive, puis 33, c'est le juste milieu, c'est le 33 des médecins. Donc, quand on dit un quart d'heure, c'est pas possible. Parce qu'il faut 20 minutes avant que le cerveau fasse la vaisselle. Donc j'aime bien 22 minutes. Après, je fais du qigong, c'est-à-dire les postures comme les animaux. Et j'ai remarqué que quand tu fais du qigong à Paris dans toute l'année, tu vis avec les oiseaux, quelles que soient les saisons. À un moment, à Paris, il n'y avait plus d'oiseaux qui chantaient. J'étais catastrophée. Tu vois? Et donc, quand tu fais du qigong, je fais du qigong toute l'année dehors, hein, donc je m'habille bien quand il fait froid, je mets une cape quand il pleut. Tu vis avec les animaux, tu vis. Je vis avec les jardiniers aussi. Tu sais, quand des fois ils ne me voient pas, je dis on ne t'a pas vu depuis longtemps. Donc, je vis avec les êtres qui nourrissent le jardin. Voilà mon temps de pratique physique avant de me consacrer aux patients, parce que mes grands-pères m'ont appris que quand tu soignes, tu accueilles les patients. Donc si tu es fatigué, comment tu peux accueillir? Donc c'est vrai que dans ma jeunesse, je rouspétais après les patients quand je voulais faire de la théorie de la médecine chinoise. Tu vois, donc tu grondais quand ils sont fatigués. Tandis que là, quand ils sont fatigués, tu les accueilles.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.